Espace d'une tectonique des plaques.
Une émission mensuelle de Dominique Desmichel, Olivier Lostis et Gabriel Seban.
Une émission qui s'offre à vous pour explorer l'invisible des cohérences.
Et des incohérences.
Là où elles ont matière à trouver leur place.
Une émission qui va vous poser questions, sans s'en vouloir experte.
Surtout quand des lieux communs vous sont assénés.
Colonne vertébrale, si ça se trouve.
Qui vous laisse toute votre tête.
Oui, vraiment.
Sans vous laisser intact, bien sûr.
Une émission au sens non interdit.
Sens moral, bien sûr.
Si on commençait à changer le monde, les amis.
Après identité, l'altérité nous oblige à pousser une porte, celle de l'altruisme. Une autre façon de changer le monde, dans l'action. Mais l'humain est-il égoïste par nature ou animé par l'altruisme ? C'est le thème de ce conducteur numéro 3 sur l'altruisme de Dorsal.
Moi, j'avais envie de reprendre une phrase, je crois que c'est Dominique, c'est toi qui l'avais citée la dernière fois, une phrase de Labiche, un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais est-ce qu'un altruiste, c'est pas justement un égoïste qui pense à moi ? D'une certaine façon.
Tu peux éclaircir parce que moi je suis pas.
Parce que en fait l'altruisme est quelque chose qu'on considère toujours comme quelque chose d'un peu d'assez noble, un mouvement vers l'autre, etc. Enfin quelque chose de très valorisé, très positif. Mais au fond, celui qui est altruiste ne le fait-il que on avait quelques discussions préalables comme ça. Juste avant l'émission, et peut-être qu'on peut se demander si l'altruisme procède vraiment d'un mouvement uniquement vers l'autre, ou si c'est aussi un retour vers soi. C'est pas une façon d'être égoïste en passant par l'autre, quelque chose comme ça, quoi.
Mais à travers ça, tu interroges l'intérêt ou l'intention, ou les deux ?
Ah, oui, j'ai pas pensé à distinguer les deux.
Parce qu'en fait...
C'est pas mal, oui, il faudrait le faire, sans doute.
Parce qu'en fait, un intérêt, effectivement, peut être rédhibitoire pour penser l'action qui vient vers nous comme altruiste. Une intention, c'est beaucoup plus large, plus accessible, non pas dans la lisibilité, mais plus accessible dans le fait d'accepter ce qui vient d'autrui.
Moi, ce que ça m'évoque, en tout cas, je trouve que cette distinction entre intention et intérêt est vraiment intéressante. Ça me donne le sentiment que, intuitivement, et peut-être de manière un petit peu idéalisée, je vais peut-être dire après pourquoi, c'est comme si on avait l'impression qu'il ne fallait pas avoir besoin d'aider l'autre pour l'aider vraiment. Donc, on sent bien que quand on aide l'autre... il y a un contre-don, et que ce contre-don, ça peut être l'intérêt dont tu parles. L'intention, ça serait d'aider l'autre, et l'intérêt, c'est que ça m'aide moi-même. Et on sait bien, par exemple, dans le monde des soignants auquel j'appartiens, pour les psys, c'est encore pire, il y a toujours quelque chose qui a à voir avec sa propre histoire, et qui fait qu'on a ce souci d'aider l'autre.
Tu veux dire qu'on se soigne en soignant, par exemple, quand on est thérapeute, quelque chose comme... C'est peut-être pas si simple que ça.
Non, pas obligatoirement on se soigne. On pourrait dire, en effet, qu'un psy guéri, là, il change de métier. C'est pas obligatoirement vrai. Il y a quelque chose qui peut changer. C'est-à-dire, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une sorte de remplissage narcissique. Hein. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle un tout petit peu, ça. Dans l'altruisme, il peut y avoir quelque chose de vraiment fondamentalement narcissique. Et puis après, il y a ce goût pour l'être, il me semble. Et dans ce goût pour l'être, il peut y avoir un don qui, à ce moment-là, est un don d'être, et où on peut accueillir le fait d'avoir du plaisir à donner de l'être.
Alors moi, ça me suggère quelque chose qui me transpose non pas de l'individu intériorisé comme on le ressent là, mais vers des structures qui sont des sommes d'individualité. Je pense par exemple à des entreprises sociales. Une entreprise sociale, bien sûr, elle a une vocation, c'est d'aller vers un certain type de public pour apporter une aide au sens noble du terme. Mais cette aide, elle est en même temps une nécessité, puisqu'elle est, d'une certaine manière, directement par des dons ou indirectement par des subventions d'État, elle est, encouragée ou justifiée par l'intérêt de pouvoir le faire. Alors, dans ce registre et par rapport à cet exemple, est-ce qu'on a la possibilité de dire qu'à un moment, une action qui est une action d'aide à des personnes, par exemple en difficulté, aurait matière à être discernée sur un plan d'intention ou sur un plan d'intérêt? C'est-à-dire que je comprends bien ce que tu dis pour l'individu, c'est cette nécessité effectivement de donner, qui existe aussi dans l'entreprise sociale. Mais jusqu'à quel point, finalement, cette nécessité de donner est-elle fondée sur une valeur lisible? Lisible au sens où, effectivement, elle est détachée, imprégnée, mais détachée, finalement, de toute velléité ou de toute volonté d'aller dans un certain sens avec l'environnement ou avec l'autre.
Je voudrais juste revenir sur la question de l'intention.
Oui.
Parce qu'il y a aussi ce qui va avec intention, c'est les bonnes intentions. Alors, je vais encore faire le contre-pied comme un altruiste, est-ce que c'est pas un égoïste? Les bonnes intentions, on dit souvent qu'elles pavent le chemin de l'enfer, hein, donc d'une part. Et puis, à propos de la relation d'aide dont tu parles, Gabriel, il y a aussi, pour avoir pendant un temps travaillé dans des entreprises justement d'aide sociale, des associations en fait, je ne suis pas certain non plus que du côté de l'intérêt, du désintérêt, de l'action désintéressée, en fait, elle soit si désintéressée que ça. Toujours, et notamment lorsque, c'est d'autant plus vrai lorsque l'action désintéressée se pose du côté du bénévolat, par exemple. Au moins, le professionnel, au fond, est dédouané. Donc, il a un intérêt, c'est juste que c'est son travail, quoi. Donc, il n'engage pas l'autre dans une dette dans la mesure où il est déjà payé pour ce qu'il a à faire. Alors que le bénévole, qui a une action désintéressée, au fond, engage une dette de l'autre côté. Alors on pourra reparler, Dominique parlait tout à l'heure du don et contre-don rapidement, je pense qu'il faudra en reparler.
Oui, oui.
Mais avant de parler de ça, simplement, voilà, le bénévolat qui engage une dette, mais de qui, éventuellement? Si le bénévole n'engage pas du côté de l'autre une forme de dette, parce que le problème de l'altruisme, c'est ça, c'est qu'il engage éventuellement une dette de l'autre qui bénéficie. L'intérêt peut être un intérêt différé, mais est-ce qu'il n'est pas toujours présent, l'intérêt? Quant aux intentions, y compris les bonnes intentions, je parle pas des mauvaises intentions, mais y compris les bonnes intentions, au fond, peuvent être peut-être pas suspectes, mais en tout cas problématiques. Comme par exemple le fait d'aider quelqu'un qui ne souhaite pas être aidé, ou du moins qui ne souhaite pas être aidé comme ça. On a tous connu cette situation, on veut aider quelqu'un. On est persuadé que pour l'aider, il faut faire, je ne sais pas, quelque chose de spécifique. Et puis on se fait rembarrer au fond parce qu'il n'a pas envie de ça. Ou alors, simplement, ça ne marche pas, quoi. Soutenir quelqu'un, par exemple, qui fait une grande dépression, on veut le soutenir, on veut être présent, etc. Et on a beau avoir les meilleures intentions du monde, ça peut ne pas fonctionner, voire même avoir des effets contre-productifs, quoi, de ce point de vue-là. Donc c'est compliqué, les intentions et l'intérêt. Vous voyez, je trouve à chaque fois, c'est comme si on avait du côté de l'altruisme cet égoïsme sous-jacent, ouais, potentiel, en tout cas. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours comme ça, mais en tout cas, il y a toujours peut-être cette question qui vient se poser. En tout cas, pour moi, elle vient toujours se poser. L'acte altruiste est porté éventuellement par un intérêt et éventuellement par des intentions dont on n'est pas certain qu'elles sont toujours très très bonnes.
Alors derrière l'intérêt, peut-être faut-il se poser la question en d'autres termes, en termes philosophiques ou moraux ou spirituels du coup.
Moi je trouve que par rapport à ce que tu viens de dire Olivier, en tout cas le fait qu'il y ait un intérêt ne dévalorise pas automatiquement l'intention. Hein. Il me semble ça, je crois que c'est important, et que ça vaut le coup, je crois, d'essayer de revenir à cette question de la dette. Parce qu'il peut y avoir une dette dans un sens, et puis en raison du contre-don, il va y avoir une dette dans l'autre sens. Simplement, elles ne sont pas de même nature. Moi, ce qui me semble, c'est que... ce qui me paraît terrible, c'est que je pense que le plus grand mal qui est fait par les hommes dans le monde, c'est fait parce qu'il y en a certains qui veulent le bien pour l'autre. Je crois que ça, c'est ça qui est terrible. Alors qu'il suffirait peut-être, c'est à mon avis beaucoup plus modeste, de tenter d'être bon avec l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait en effet, pour reprendre ce que tu disais Gabriel, une dimension morale là-dedans, être bon pour l'autre, mais surtout ne pas s'autoriser à voir le bien à la place de l'autre. Parce que là, à mon avis, c'est risqué, en effet, probablement d'être dans une parole totalitaire, camouflée sous les habits de l'altruisme. Hein. Voilà. Donc je pense que ça me paraît être important. Et il me semble que la question que tu poses, là, Olivier, par rapport à tout ça, c'est une question fondamentale. Et pour moi, une des questions les plus fondamentales de l'existence, c'est la question de l'évaluation. C'est-à-dire toujours... par rapport à la grande question philosophique qui serait qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, par exemple, ou une vie juste, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse en dehors de moi-même, mais que ce moi-même relève que de ma capacité à évaluer ce que je fais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est celle que je vis à partir du moment où, eu égard à ma capacité d'évaluation, je la trouve bonne. Voilà, c'est tout. Donc, dans l'altruisme, je peux, si j'évalue qu'il y a un don et un contre-don, et que le contre-don est juste, alors peut-être je peux m'autoriser presque à avoir du plaisir à donner.
Voilà.
Hein? Donc je trouve un intérêt dans le don, mais je trouve que le contre-don, il est juste, et en particulier, il n'est pas abusif. Hein? Voilà.
Oui, mais alors, dans ce que tu dis, Dominique, il y a quelque chose qui plane en termes de reconnaissance. Reconnaissance de soi par rapport à soi, ou reconnaissance de l'autre via le contre-don par rapport à ce qui lui a été donné. Mais je suis en train de me poser la question, et je me vois dans certaines situations à me dire, mais finalement, si je n'attends rien, si je le fais dans un élan, est-ce que finalement c'est si important que ça de poser derrière l'acte soit une évaluation, soit un jalon quelconque de crédibilité, puisque effectivement je le fais en conscience, sans volonté d'attendre quelque chose.
Moi, je ne suis pas sûr que ça existe, ça, parce qu'il y a probablement toujours dans le fait de donner, même sans aucune intention particulière, il y a du sens. Donc s'il y a du sens, il y a une signification, il y a une direction, Et probablement, il y a une sensorialité, hein, par exemple, du côté de l'émotion ou du sentiment qu'il y a à donner. Hein.
Voilà. Donc, en fait, tu justifierais que l'intérêt peut être aussi un intérêt émotif, à la limite.
Hein. Oui.
Parce qu'effectivement, on peut trouver toujours une justification aux choses. On peut toujours la tricoter dans ce sens-là. Mais est-il utile de remonter les mailles jusqu'à, effectivement, trouver quelque chose qui ne nous apparaît pas évident dans un premier regard qu'on a sur la chose, quoi.
Quand même, en gros, quand on aime, on est au mieux de soi-même. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans une position altruiste vis-à-vis de l'autre, souvent, on vit l'expérience d'être au mieux de soi-même.
Tout à fait.
Je vois pas pourquoi on s'en priverait.
Tout à fait.
Voilà.
Peut-être qu'on, sur le plan moral, en tout cas, c'est plus facile.
Oui.
C'est plus facile parce que la morale, au fond, comme système de règles, à peu près partagé, en tout cas dans une ère géographique, historique donnée, bon, on est à peu près tous d'accord sur ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, en gros.
Le mal est facile à définir. Le bien, beaucoup, beaucoup plus difficile.
Oui, tu as raison. Sans doute. Mais en tout cas...
On peut toujours dire... il est toujours plus facile de dire ce qu'il ne faut pas faire.
Ouais.
Après,
La morale est souvent d'ailleurs organisée comme ça. C'est souvent une catégorie, liste d'interdits ou de.
Dans le Décalogue, par exemple, dans les 10 commandements, je crois qu'il y en a 8 qui sont des interdits et 2 qui doivent être tu aimeras ton Dieu comme toi-même et tu honoreras ton père et ta mère. Tous les autres, si ma mémoire est bonne, sont des interdits.
Je crois que c'est pas ton Dieu comme toi-même, mais c'est tu aimeras.
Ton prochain.
Ton prochain.
Ton proche.
Ouais.
Et alors,
c'est vrai.
Si on met une intention systématique,
un sens.
L'altruisme poussé à l'excès va jusqu'au sacrifice.
Oui.
Quelle intention mettrait-on derrière le sacrifice ?
Moi, je trouve qu'il y a deux composantes dans ce sacrifice. Il y a le petit sacrifice avec un petit S, qui à mon avis est narcissique, qui relève de la jouissance, du remplissage, de « je m'aime avant tout moi-même dans le don que je fais à l'autre ». Voilà. Donc il est vraiment narcissique, il y a une espèce de mirage narcissique dans l'imitation christique, par exemple, hein, il me semble. Mmh. Et puis il y a l'idée du sacrifice avec un grand S, c'est-à-dire...
Jusqu'à la perte de la vie.
Oui, mais je dirais, l'étymologie de sacrifice, c'est sacrum facere, c'est-à-dire faire du sacré. Or, l'étymologie de sacré, c'est ce qui est inaccessible, ce qui est ailleurs, et surtout ce qui est séparé. Donc, il me semble que, alors, dans ce sacrifice, il y a quelque chose qui ne m'appartient plus. Voilà. Peut-être c'est un des critères d'évaluation, c'est-à-dire de dire « ça ne m'appartient plus ».
Voilà, tu le dis beaucoup mieux que ce que je le disais précédemment, mais c'est le fait de se retrouver devant une situation où finalement la raison échappe à la personne qui souhaiterait la nommer.
Ça dépend, je pense qu'on peut aussi, si on pense aux situations de guerre par exemple, le héros... souvent est celui qui va se sacrifier pour les autres. Mais c'est pas du tout... on pourrait très bien dire aussi que c'est un calcul tout à fait raisonné et raisonnable, parce que le héros va se sacrifier parce qu'il y a un gain pour son camp, en quelque sorte. Et pour autant, d'ailleurs, c'est là le trouble.
Achille, typiquement.
Voilà, Achille, son sacrifice, enfin, le fait qu'il va aller jusqu'à la mort, etc., enfin... Bon. Achille le fait pour l'éternité, c'est-à-dire pour gagner quelque chose de plus que la simple vie confortable que sa mère d'ailleurs lui propose avant qu'il ne parte guerroyer à Troie. Donc il a les deux options. Est-ce que tu veux mener une vie longue et tranquille, peinard, mais on ne se souviendra pas de toi, ou est-ce que tu veux que de tout temps on se souvienne du héros Achille? Mais dans ces cas-là, ta vie sera brève et violente, quoi. En gros, c'est ça que sa mère lui propose. Juste pour revenir là-dessus, justement, ça éclaire encore potentiellement la même chose que ce que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan moral, sur le plan du comportement, c'est assez facile de déterminer ce qui est altruiste ou ce qui n'est pas altruiste. Altruiste, en gros, ça va être quelque chose qui ne va pas tomber sous les fourches codines d'une morale qui interdirait ce comportement. Égoïste, par contre, c'est plutôt que du côté de la morale, ça va être un peu condamné, plus ou moins condamné. Mais voilà, l'égoïste, c'est pas bien. On ne doit pas être égoïste. Sous-entendu, on doit être altruiste. Ça, c'est une position morale, mais c'est du côté du comportement que les choses, là, sont visibles. Ça ne préjuge, à mon avis, pas du tout de l'intériorité, justement, de l'acte altruiste. On peut, sans aucun doute, avoir quelque chose qui... un comportement qui paraît égoïste, qui, au fond, peut être un gain pour l'autre. Je n'ai pas d'exemple qui me vient comme ça à l'esprit, mais par exemple, regarder l'idée de la guerre, les gens qui ont résisté sans que personne jamais le sache et qui sont morts résistants alors que tout le monde les pensait collabos. Voilà. Donc tout le monde les pensait entre guillemets égoïstes, et ils étaient d'autant moins égoïstes qu'ils paraissaient et se comportaient comme des égoïstes sur un certain point. Pour être encore plus altruiste, mais altruiste pour qui? Pour le camp qu'ils défendent. Bon, donc avec toujours aussi cette minoration de l'altruisme, qui est qu'en fait, le résistant, c'est aussi le terroriste de l'autre, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un petit peu à la serpe ce que je dis là, mais c'est compliqué lorsque de l'altruisme visible, facial, jugé moral, on doit passer à ce qui se passe à l'intérieur, derrière, ce qui conditionne, donc justement, ce qui motive, le désir qui motive comme ça le comportement altruiste. Parce que je pense que c'est très très difficile d'imaginer un comportement altruiste tant qu'un désir sous-jacent le porte vraiment. Moi, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, par exemple. Hein. Je crois qu'on ne peut pas. On ne peut pas.
Alors, ça me remet en question sur la question du confort, finalement. Et y aurait-il un altruisme qui serait confortable et qui serait effectivement généré avec une certaine facilité? Et y aurait-il un altruisme inconfortable, soit pour des raisons...
Qui serait le seul valable, c'est ça? Celui qui est inconfortable est le seul vrai altruisme, en quelque sorte. Si on souffre, c'est vraiment...
Il coexisterait, mais il y en aurait un qui, par la souffrance, effectivement, générerait plus de respect que l'autre.
Mais je trouve que ça, c'est une vraie question. On sent bien qu'il y a quelque chose qui a à voir avec ça. Hein. Ouais. En gros, quand ça m'embête, probablement c'est un vrai don. Ouais. Puis en même temps, on se dit... Non, écoute, c'est pas sérieux cette histoire. Hein. Donc, on sent bien qu'on navigue dans des eaux qui sont un petit peu compliquées. Moi, ce qui me semble, c'est que la générosité vis-à-vis de l'autre, elle s'arrête toujours quand commence le mépris de soi-même, d'abord. Ça, moi, je pense que c'est très important. C'est-à-dire, il n'y a pas de position généreuse vis-à-vis de l'autre qui serait exclusivement à destination de l'autre. Parce que si il y a une... Si on est... Ce que l'on fait, c'est tout pour l'autre, en s'oubliant soi-même, alors on est dans une position masochiste. Le sadique, c'est celui qui dit « il n'y a que moi qui existe, tous les autres sont des objets ». Le masochiste dit « je n'existe pas, tout est pour l'autre ». Et donc le masochisme, il jouit de la position du sadique, et bien évidemment, inversement. Je crois que par rapport à ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure, moi, je donnerais comme exemple, tu en cherchais un, tu en as donné un avec les résistants, par exemple. Moi, de manière très simple, je dirais, de temps en temps, à l'insu de son plein gré, comme disait ce grand psychanalyste coureur cycliste Richard Virenc, on ne donne pas à quelqu'un l'objet qu'il réclame, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais ça ne nous paraît pas juste. Et on va découvrir après que ça a permis à l'autre de le trouver lui-même. Voilà quelque chose qui peut être franchement inconfortable, où on peut se sentir pas très à l'aise. Voilà, comme par exemple, on peut dire, il faut beaucoup plus d'amour quand on est parent pour dire non à l'enfant que pour lui dire oui. Voilà, hein. Donc voilà une sorte d'altruisme qui se joue dans quelque chose qui est complexe. Deux éléments qui me revenaient aussi. Le personnage d'Antigone. Personnage d'Antigone, on pourrait dire, Elle est tellement fascinante pour nous, on l'imagine tellement belle, extraordinaire. Voilà, elle donne sa vie au nom de d'une loi morale extraordinaire. Elle combat la loi pure de l'État, etc. Mais en même temps, de temps en temps, alors je sais que je fais bondir d'horreur beaucoup de gens, elle n'est pas très maligne quand même, je trouve, Antigone, parce que elle aurait pu négocier, on aurait pu discuter, elle aurait pu causer avec Créon en lui disant « Écoute, voilà, on peut peut-être faire quelque chose, trouvons un compromis, vous voyez ?» Ce qui aurait été probablement beaucoup moins héroïque pour elle. Et peut-être d'ailleurs l'histoire l'aurait oublié, et Sophocle l'aurait pas du tout inventé. Mais en même temps, il y aurait eu quelque chose d'autre. Et j'aime à rappeler que l'indagramme de Antigone, c'est « négation ».
Ah oui.
Très joli, oui. C'est très très joli, ça.
Elle s'est oubliée elle-même. Au profit d'une jouissance narcissique. Je pousse un peu le trait, parce qu'évidemment, c'est génial ce qu'elle fait Antigone en même temps. Hein, de dire la loi du cœur, ça vaut mieux que la loi de l'État. Mais prudence, prudence.
Mais c'est intéressant ton exemple, parce qu'il révèle aussi la notion de médiation par rapport à l'environnement, au sens large du terme. Cette notion de médiation que tu interroges dans son absence pour Antigone par rapport au... Tu l'interroges par rapport au pouvoir.
Oui.
Alors, le pouvoir, c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. On n'est pas simplement sujet ou assujetti au pouvoir, on est imprégné de la relation qui fait naître effectivement le pouvoir de l'autre. Alors, toi, tu estimes qu'à un moment donné, je reviens à l'altruisme, parce qu'en fait cet exemple me le suggère, tu suggères donc qu'à un moment donné, finalement, à l'intérieur de l'acte, il peut y avoir une médiation, une négociation de quelque chose de résistant, pour en revenir à ce que tu disais, Olivier, qui est en nous, par rapport à un environnement qui serait effectivement plus normé, plus caractérisé dans une façon d'être, de se comporter ou d'agir.
Ben, peut-être que, Olivier, ça vaudrait le coup que tu... Parce que je trouve que, Gabriel, c'est vraiment très intéressant que tu reviennes sur la question de la résistance, hein, au fond. Et je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que tu voulais dire, Olivier, parce que, évidemment, Antigone, c'est la figure archétypique de la résistance. Hein, et de la résistance à un pouvoir abusif, qui est le pouvoir de l'État, c'est-à-dire qui n'est pas un pouvoir symbolique, hein, mais qui est un pouvoir, voilà, c'est comme ça, voilà, presque sadique.
Non, je prenais l'exemple, un exemple qui était très spécifique, qui était le résistant qui se fait passer pour un collabo.
Oui, oui.
Donc en fait, quelqu'un qui donne comme apparence comportementale sans doute quelque chose qu'on peut rapprocher de l'égoïsme le plus clair. Je suis collabo parce que c'est mon meilleur gain immédiat. En gros, l'égoïste, c'est un peu, on pourrait le caractériser comme ça, un gain immédiat. L'altruiste, s'il y a gain, c'est un gain différé. Quelque chose comme ça. On pourrait essayer de... On reviendra sur la question du don, parce qu'on n'en a pas assez
ou
parlé.
Objet et être aussi.
Objet et être. Mais on peut le mettre du côté, effectivement, comme ça, l'essentialiser du côté de l'objet et de l'être, ou bien peut-être simplement... aussi le dialectiser ou le désynchroniser sur un registre chronologique. Enfin, il me semble que c'est possible, en tout cas, de regarder comme ça. C'est toujours partiel comme regard, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, le collaborateur, donc le collabo, lui, donne tous les signes de l'égoïsme, du gain immédiat. Là où le résistant, lui, prend des risques... On peut lui supposer potentiellement un gain différé, parce qu'il espère bien gagner, ou que son camp gagne, on revient au héros de tout à l'heure. Mais le résistant qui se fait passer pour un collabo pour pouvoir résister, c'est très compliqué, mais au fond, ça pourrait être une position la plus vraie, au sens où il y a une forme, peut-être pas de masochisme, mais en tout cas, une forme de risque très très important de ne jamais être rétribué, au fond. Puisque de toujours apparaître comme celui qui, justement, a pris d'emblée le maximum, même si c'était pour autre chose. Donc c'était un exemple très, 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 très précis comme celui-là, parce que, pour essayer de montrer que j'ai du mal à détricoter complètement, en fait, la question de l'égoïsme et de l'altruisme. Je ne suis pas absolument certain que ce soit complètement différent tout le temps. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien l'idée chronologique. L'être et l'avoir, pourquoi pas, mais l'idée chronologique où c'est la même chose. Je choisis de gagner tout de suite, je choisis de gagner plus tard. Je suis égoïste, je suis altruiste. Je choisis toujours de gagner. J'ai une vague, comme ça, position de suspicion, on va dire.
Oui, mais alors si on accepte ça, Olivier, et c'est tout à fait acceptable de le concevoir comme ça, c'est la définition même du don qui revient à nous et qui, en boomerang, et qui dit, mais en fait, il n'y a pas de don. Il y a en fait une espèce de manipulation masquée par laquelle, effectivement, je fais passer soit l'intention, soit de l'intérêt.
Alors justement, revenons sur le don, parce oui. que le don tel que par exemple Marcel Mauss l'a décrit, oui. ou Georges mmh. Bataille par exemple, hein, ou René Girard aussi d'ailleurs, du côté du sacrifice, justement, même simplement Mauss déjà pour commencer, il a décrit d'abord un processus tout à fait étonnant qui s'appelle le potlatch, donc ce qui est un régime de don entre tribus ou entre familles voisines, où le premier acte n'est pas un acte d'achat, par exemple, ou un acte d'échange directement, mais un acte de don pur. Et ce qui caractérise le potlatch, c'est que le don est quelque chose qui coûte à celui qui donne. C'est-à-dire qu'il ne donne pas quelque chose qui a de la valeur pour l'autre, il donne quelque chose qui a de la valeur pour lui. Donc ça lui coûte vraiment. Du coup, celui qui reçoit va essayer de mesurer le coût de celui qui lui a fait, et devra, et donc est en dette de ce coup-là. Et d'ailleurs, c'est complètement curieux, parce que ce qui s'est passé lorsque les Occidentaux sont arrivés, c'est-à-dire qu'ils ont échangé des choses, des colifichets, en faisant croire, justement, que ça avait de la valeur pour eux, de manière à obtenir de l'or, qui était quelque chose qui n'avait pas une valeur tellement gigantesque pour les tribus en question, puisqu'elles n'utilisaient pas comme monnaie, mais comme... Il y en avait pas mal, donc c'était la fabrication de colifichets, et c'était des colifichets pour des colifichets. Donc il y avait quelque chose d'une valeur... voilà. Évidemment, il y avait une tromperie là. Donc on peut toujours tromper dans un échange marchand d'une part, ou un échange justement comme ça de dons. Mais vous voyez, le don, simplement, c'est pour ça que je proposais un regard sur égoïsme-altruisme chronologique, et simplement un échange qui n'est pas immédiat. Il est décalé dans le temps, c'est-à-dire qu'on met l'autre en dette. Il devra réfléchir et rembourser, etc. Et puis il y a eu des guerres de dons, hein, entre familles ou entre tribus, très très. Voilà.
Alors est-ce que tu laisses entendre que finalement l'altruisme serait une monnaie d'échange entre l'exigence portée par le moi et l'amour de l'autre? Qui serait en fait, je dirais, globalement l'enveloppe, le papier cadeau de ce qu'on pourrait récupérer, quel que soit le...
Disons que ça pourrait être aussi un amour de moi que j'accepte de différer en passant par l'autre.
Ah
oui. Oui, puis bon, l'amour de soi, c'est quand même sacrément important, hein.
Oui.
La majorité des gens qui ont du mal à entrer en relation, c'est-à-dire à aimer alors aussi ou à être aimé, c'est le plus souvent des gens quand même qui ne s'aiment pas bien eux-mêmes. Hein. Mmh. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Hein. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que peut-être l'idée, c'est que, comme l'a dit Marcel Mauss, en effet, il n'y a pas de don sans contre-don. Mmh. Mais que le contre-don, lorsqu'il est du côté de l'être, et lorsque la générosité du cœur est perçue comme authentique par celui qui donne, eh bien alors, voilà, on est dans un échange qui simplement vaut, parce qu'il va faire du sens pour chacun. C'est-à-dire, il va avoir au fond une signification, il va donner une direction, et il va faire du lien. C'est là où on pourrait dire que, pareil, l'objectivité et la subjectivité, ça n'existe pas vraiment. Il y a toujours de l'intersubjectivité, c'est-à-dire toujours de l'échange entre deux personnes, il me semble. Donc ça vient dire que... Parce que ce qu'on peut aussi se dire quand même, c'est qu'il y a le jeu aussi de l'identification à l'autre, hein, et que dans le fait que je donne à l'autre, il y a bien l'idée que si j'étais à sa place, j'aimerais qu'on me donne.
La compassion.
Voilà, c'est l'idée de la compassion, tout à fait.
Ou de l'empathie. Ou...
Oui, oui, oui.
Mais alors ça me pose quand même une question, vraiment, parce qu'on tourne autour de tout et tout depuis un petit moment. C'est la limite du champ entre, finalement, le social et la relation qui en découle et la psychanalyse, avec peut-être la notion du surmoi, du dépassement qu'il y aurait derrière ça. Est-ce que les grands spécialistes que vous êtes pourraient m'éclairer sur cette réflexion?
Je repensais à ce qu'on avait dit juste avant qu'on allume les micros, là, qui était cette phrase, surtout dans cette radio, « Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et moi, je trouvais que cette phrase était quand même très critiquable parce que, dans une certaine mesure, si je dis « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais », il y a une dimension quand même fondamentalement méprisante pour l'autre. C'est-à-dire, je sais plus que toi, toi tu sais pas. Donc, tu m'as offensé, mais je préfère te dire, je ne te pardonne pas tant que tu ne sais pas ce que tu as fait. Voilà. Mmh. C'est pour ça que, moi je trouve que, parce qu'il y a l'idée de l'altruisme, il y a l'idée du don, puis on pourrait venir derrière à l'idée du pardon aussi. Hein. Le pardon, c'est, je te le fais par le don. Voilà. Or, le don, pour moi, ça passe obligatoirement par une élaboration. Le reste a toute chance d'être sur le plan psychique, pour la grande majorité d'entre nous, quelque chose qui est de l'ordre du refoulement. Alors, il y a peut-être des gens qui ont une contenance spirituelle telle qu'ils peuvent s'affranchir de ce risque de refouler, de ce risque de refoulement, et être vraiment dans une espèce de don oblatif qui appellerait ou qui serait en prise directe, au fond, avec une transcendance. C'est possible, je sais pas trop, peut-être j'en ai jamais rencontré. Mais je préfère dire que, voilà, non, je ne te pardonne pas parce que tu sais pas ce que tu fais. Je ne te pardonne pas. Il faut qu'on arrive tous les deux à comprendre ce que tu as fait, pourquoi je me suis senti offensé. Et puis après, vraisemblablement, la question du pardon sera complètement accessoire. Ça sera pas important. Là, peut-être se vit une véritable altérité et une altérité généreuse qu'on pourrait alors à ce moment-là appeler altruisme.
Des trésors à ceux qui l'ont aimé. Pour le païen qui croit, pour ce bon Dieu en croix, que tout le monde finit par oublier. Je dis qu'il n'y a qu'une façon de les rassembler. Pour l'oiseau en hiver, pour l'enfant du désert, que la pluie ne viendra pas sauver. Celui qui se bat, pour celui qu'on abat, au nom d'une étrange liberté. Je dis qu'il n'y a qu'une façon de nous révolter. Générosité pour les hommes de bonne volonté. Des étoiles va commencer. Déclaration de paix, déclaration d'amour. Combien de temps faudra-t-il prier? Je dis qu'il n'y a qu'une façon de nous rassurer. Générosité pour les hommes.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour l'émission Dorsale avec Gabriel Seban, Dominique Desmichel, Olivier Lostis. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, dorsale au pluriel RGC pour Radio Grand Ciel, donc dorsale SRGC, @gmail.com.
Alors oui, alors Darwin et sa théorie de l'évolution prônaient finalement la loi du plus fort, la préférence de proximité, c'est un faux altruisme, j'aime mieux ma famille que mes voisins que l'étranger, etc. Bon, derrière cette apparente théorie et cette apparente loi se pointe notre questionnement sur l'altruisme. Est-ce que l'altruisme faisait partie effectivement de sa préoccupation et est-ce qu'il l'a chassé de son concept d'évolution de loi du plus fort tout en ayant conscience effectivement que l'altruisme existait?
Moi je dirais d'abord que, je ne sais pas si je dirais la loi du plus fort, c'est la loi du plus adapté. C'est celui qui est le plus adapté aux conditions qui va s'en sortir le plus. C'est pas obligatoirement celui qui se casse la gueule de toutes les autres, de tous les autres, en disant, en se tapant avec les poings sur le thorax ou le poitrail. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que dans l'évolution, cette loi-là, qui est la loi du plus fort, c'est une loi archaïque. C'est-à-dire, c'est une loi qui vaut, qui a sa pertinence, et d'ailleurs dans une certaine mesure, la loi, même la loi symbolique, elle se doit d'être la plus forte. Voilà, vous avez un sens interdit à l'entrée d'une rue, il n'y a rien qui vous empêche de rentrer, mais cette loi elle est forte et elle est puissante, et elle vaut. Donc je crois que dans l'évolution aussi, la coopération, l'empathie, l'altruisme, ça peut vraiment largement privilégier un groupe, augmenter sa capacité à s'adapter, et lui permettre donc d'avoir, par exemple, dans le sens le plus concret du terme, d'avoir une descendance plus nombreuse que celui qui est le plus fort.
Mais est-ce que la société humaine, la société, a bien intégré cette ringardise darwinienne et ne fonctionne pas encore aujourd'hui sur, je dirais, de faux rapports à cette théorie?
Moi, j'aime bien ta question initiale sur la question des lois naturelles, est-ce que les lois naturelles, etc., à quoi Dominique opposait finalement des lois culturelles, quelque sorte, c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre du contrat et qui sont de l'ordre du réglage du rapport à l'autre. Alors, je pense qu'on est dans une autre dimension de la question altruiste, le rapport à l'autre, tel qu'il est réglé par des lois, qui ne sont pas que des lois morales, qui sont des lois qui correspondent aussi au meilleur intérêt. Je veux dire, par exemple, un sens interdit, c'est pas une loi morale en soi, c'est juste quelque chose qui permet de prendre un ensemble de précautions et d'éviter des accidents. Donc, c'est comment on ajuste les choses comme ça. Alors, je pense que, d'ailleurs, enfin, je fais une suggestion entre parenthèses comme ça, ça pourrait être, parce que ce rapport à l'autre après l'altruisme, l'objet de la prochaine émission de Dorsale, peut-être. Enfin, on en reparlera éventuellement tout à l'heure, mais ça me semble être un prolongement intéressant. En tout cas, c'est vrai que, à partir des lois naturelles, enfin, en tout cas, le monde humain, tel qu'on le connaît, le monde culturel, c'est-à-dire dès lors qu'il y a eu des écrits ou des traces d'écrits, est passé à tout à fait autre chose. Et la première loi humaine est probablement celle qui succède à la loi du plus fort ou celle du plus adapté, c'est-à-dire la loi du talion. C'est-à-dire qu'on est condamné à due proportion de l'acte qu'on a commis et qui serait répréhensible dans le rapport à l'autre, justement. Donc je pense que ça... Alors, on est loin de Darwin, là, mais en même temps, c'est ce qui fait entrer, je crois, ces lois, ces premières lois humaines, même si aujourd'hui, la loi du talion, on l'a abandonnée. Hein, je veux dire, un criminel n'est, dans une majorité des pays du monde, n'est plus condamné à mort. Par exemple, quelqu'un qui commet un meurtre, pardon, parce qu'un criminel, ça peut être plus un large qu'un meurtre, un assassin, oui, voilà, merci,
pas un assassin. Un criminel, mais un assassin.
Un assassin,
donc,
absolument.
Avec l'intention. Là.
Voilà. N'est plus condamné à mort dans la majorité des pays de la planète. Il y a encore où c'est le cas, mais donc on est sorti de l'exemple le plus emblématique de la loi du talion. On élabore encore, on avance. Mais en tout cas, c'est à partir du moment où il y a une loi humaine qui pose des proportions, qu'on est entré dans un registre de collaboration, certainement, qui a fait certainement le succès aussi de notre espèce par rapport aux autres, probablement. Le succès est peut-être un peu trop important d'ailleurs aujourd'hui. Je crois qu'on pourrait se poser ces questions-là d'ailleurs aussi, mais du côté d'une loi humaine qui s'étendrait. Et c'est, oui, c'est quand même intéressant parce que c'est un débat qui a cours aujourd'hui, c'est-à-dire l'extension des lois humaines et de la considération de la personne humaine vers l'animal. On dira bientôt vers la personne animale, probablement. Très probablement. Hein, on avance dans des rapports différents aussi à ce nouvel autre qu'on est capable peut-être d'aborder aujourd'hui, qui est l'animal, quoi. Qui est celui d'une autre espèce. Je me suis peut-être un peu éloigné de la question initiale.
Non,
en fait.
Non, le principe était de réfléchir à cette... Mais alors la pérennité de l'altruisme... En amont, est-ce que finalement les sociétés primitives étaient des sociétés dans lesquelles l'altruisme avait matière à s'exprimer, à se manifester? Est-ce que ces sociétés-là généraient, indépendamment du fait culturel propre à notre époque, une culture qui était une culture finalement de la générosité?
Je pense que je suis pas du tout, j'ai pas beaucoup de compétences là-dessus. Ce qu'on peut dire, c'est que dans la période du néolithique, hein, en gros 3000 à 10000 avant Jésus-Christ, avec toute la question de l'élevage, de la sédentarisation, du fait qu'on va enterrer les morts dans une terre et donc que cette terre devient sacrée, donc il faut défendre un territoire, hein. C'est ça au fond ce qui s'est passé au néolithique, hein. Alors je crois que la question de ce qui m'appartient prend du sens. Et donc on n'a plus simplement, enfin l'homme n'est plus devant une nature qui lui donne tout, mais il a à défendre quelque chose de son territoire. J'aurais moi tendance à penser qu'il fait en même temps l'expérience que quand la nourriture manque et qu'il y a un mammouth qui est un capital de masse de viande énorme, quand on s'y met à 20 ou 30, c'est mieux que quand on est à 2 ou 3. Voilà. Donc on pourrait se dire là, peut-être qu'au fond, il découvre la valeur de l'altruisme, qui est un altruisme intéressé parce qu'on va récupérer de la viande. Mais au fond, peut-être dans une certaine mesure désintéressé, parce que on dit « je prends le risque d'aller me faire écraser par le mammouth au nom d'un collectif hein ». Donc il y a à la fois l'intérêt pur, mais il y a aussi l'intérêt que je prends le risque de tout le monde, et je dis pas « écoutez, vous les 29, vous y allez, moi je vous attends, et pendant ce temps, j'allume le four ». Hein ? Non, il y a quelque chose qui se joue là.
Il y en a sûrement qui l'ont fait quand même, hein, ça.
Sûrement. Oui, il y en a sûrement. Il y en a encore qui continuent à allumer le four.
Pendant que les autres chassent le mammouth.
Ouais. Dans les pantoufles. Donc il me semble que c'est... Moi, j'aurais tendance à penser que j'imagine le retour de la chasse au mammouth, où peut-être il y a eu quelques morts, mais il y en a une vingtaine ou 25 qui sont revenus. Et je pense qu'ils ont fait une expérience d'être à ce moment-là. Voyez, et faisant une expérience d'être, il découvre quelque chose qui peut-être est tout à fait nouveau. Et donc, pour reprendre ce que tu disais, Olivier, on est en train de commencer à l'exigence qu'impose la nature, à la découverte des trésors de la culture.
Oui, alors moi, je reparlais des sociétés primitives parce qu'en fait, je tournais autour de la question altruisme et conscience, et que les sociétés finalement primitives ont commencé avec l'émergence d'une conscience sociale et d'une conscience d'une spiritualité, on va le dire comme ça, à enterrer leurs morts. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'enterrer un défunt, est-ce que c'est un geste altruiste?
D'abord, enterrer les défunts, on est sûr que les premières tombes datent au moins de 50 000 ans. Probablement de 100 000, voire peut-être de 150 000 ans. Donc par rapport à la grotte de Lascaux qui est en gros 16-17 000 ou la grotte Chauvet qui est 32 000, on voit bien que 50 000, nous on ne se rend pas bien compte, mais c'est quand même très très longtemps avant. Donc il y a 50 000 ans, quelle était la notion de l'altruisme chez l'homme de cette époque? Moi je ne me sens pas beaucoup de compétences pour dire là-dessus. Mais il me semble que, et je crois que là on rejoint et la question du sens et la question peut-être de la transcendance, c'est-à-dire les gens, quand ils sont dans la grotte Chauvet et qui dessinent toutes ces choses extraordinaires, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas une conscience de l'être, une vraie conscience de l'être, une vraie conscience de, des grandes questions que Kant a posées, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, et qu'est-ce que c'est que la vie, ou que disent les philosophes, qu'est-ce que c'est qu'une une vie bonne, ou une vie juste, il me semble. Donc, je ne vois pas comment, à partir du moment où il y a la question du sens, il n'y a pas la question de l'autre, donc la question de l'altérité et de l'altruisme. Je rappelle comme le mot altruisme, c'est un mot qui a été inventé par Auguste Comte en 1830. Hein, donc c'est un mot quand même qui est extrêmement récent. Hein, 1830, ça fait 150 ans, quoi. Non, je ne calcule plus, pas, mais un petit peu plus, quoi. Enfin, c'est un mot relativement 180 ans, donc, ou 190. Donc c'est pas très vieux. Donc, moi, je crois que l'altruisme derrière, il y a toujours la question du sens.
Alors, je reviens encore à l'histoire de ce mammouth-là, qui effectivement a eu, je dirais, le mérite d'exister pour faire naître effectivement la collectivité. Et le mot qui me venait à travers l'altruisme et qui a du sens par rapport à cette expérience où les assurances n'avaient pas encore de sens, c'est le mot du partage. Alors, finalement, on l'emploie assez peu dans notre société, le terme du partage. Hein, c'est pas un terme... on va employer plutôt le terme de solidarité, mais finalement, par rapport à la diminution des ressources de la planète, par rapport à des différences, je dirais, de capacité de répondre à des besoins vitaux, le partage va commencer à s'imposer, non pas dans la réalité pratique, mais dans une réalité effective de devoir, je dirais, comme dirait Lavoisier, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, à partir de ce moment-là, et je me posais la question si, finalement, le fait d'accepter la norme à définir d'ailleurs, la norme du partage, ne posait pas le problème d'une évolution nécessaire de notre société vers l'altruisme.
Moi, ça m'évoque deux types de situations, c'est-à-dire une situation où les choses vont à peu près bien, puis les situations un peu tragiques. Je me souviens d'avoir lu un article lorsqu'il y avait eu cet ouragan à la Nouvelle-Orléans, et où peut-être la presse, je ne sais pas trop quoi, dans l'immédiat de cet événement, avait raconté le tragique, bien évidemment, la solitude, et avait raconté beaucoup de choses de l'ordre de gens qui allaient piquer dans les maisons, qui allaient vandaliser les magasins, etc. Plein de choses comme ça. Et puis, après, il y a eu des tas d'études qui ont été faites, qui ont montré que ces actes un petit peu, voilà, d'incivilité évident, étaient finalement pas si nombreux que ça, alors que à côté, les actes de solidarité avaient été extrêmement, extrêmement, extrêmement importants. Donc voilà, j'ai envie de dire, pas pour être dans une espèce de psychologie positive à tout craint, sous-entendu, obligeons-nous à être optimistes et nous serons pessimistes lorsque les jours seront meilleurs, mais en se disant que du côté du partage, le tragique invite toujours au partage. La question, c'est que lorsqu'on est dans une situation, je dirais un petit peu de sécurité ou de bien-être, dans ce genre de situation, c'est plus difficile.
Alors, l'altruisme est-il quelque chose qui se transmet génétiquement ? Est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une nouvelle approche de la génétique, c'est l'épigénétique, c'est une discipline de la biologie qui étudie des mécanismes moléculaires qui modulent l'expression précisément du patrimoine génétique en fonction des contextes. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait de pouvoir définir ou modifier des contextes pour pouvoir contrecarrer ou faire évoluer des déterminants génétiques. On a aussi aujourd'hui la possibilité de repérer par des IRM, je crois, sur les zones du cerveau concernées, et notamment la zone préfrontale, des réponses dites ou assimilées à de l'altruisme par rapport à certains réseaux neuronaux. Alors, que faut-il attendre finalement, et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait terminer, que faut-il attendre à l'avenir de notre capacité à prendre en main notre patrimoine humain?
Alors, c'est très compliqué tout ça. Peut-être je peux signaler qu'avec Simon, on va faire une émission autour des émotions. Et donc, j'aurai l'occasion de reprendre cette articulation très compliquée entre le cortex préfrontal et en gros le système limbique. Le système limbique, c'est, on va dire, l'amygdale plus plein de petites choses, l'insula qui compte, l'insula en particulier dans l'empathie, hein, compte, et de comprendre cette articulation. Le système limbique, c'est le circuit de la peur. Donc, il y a quelque chose autour de la peur qui peut être aussi corrélé à l'altruisme. Le cortex préfrontal, c'est ce qui vient, en gros, calmer. Hein. Lorsqu'on a très peur, lorsqu'un enfant dans le noir a peur le soir, comme ça, c'est qu'il n'arrive pas à calmer son amygdale. Alors, l'épigénétique, elle concerne non pas l'expression génétique, mais elle concerne le fait que un gène, il est là, bien évidemment, il est transmis, mais il va s'exprimer ou non. Et je marque des petites choses là-dessus. On sait par exemple que chez les souris, les petits des mères les moins maternantes présentent à l'adulte des marqueurs neurobiologiques d'une plus forte vulnérabilité au stress. Ça, c'est important. Et que dans la même perspective, on sait que les souris développent une réactivité au stress qui correspond à celui des mères qui les ont élevées et non pas à celui des mères qui les ont engendrées. Hein? Donc ça, c'est très intéressant, vous comprenez. Hein? C'est-à-dire, voilà, on sait ça chez les souris, c'est un peu plus compliqué d'étudier ça chez l'homme, mais on voit bien que, vous voyez, la capacité, par exemple, à tenir une situation, par exemple, à calmer son amygdale, pour reprendre l'image que j'employais tout à l'heure, à faire fonctionner son cortex préfrontal qui va venir contrôler la dimension de panique qui est associée à l'amygdale et à tout le système limbique, ça dépend aussi beaucoup de critères éducatifs et aussi de critères génétiques, mais du côté de l'expression de certains gènes et non pas des gènes.
Bon, on a fait un petit tour d'horizon sur ce que nous suggérait l'altruisme, mais il y aurait bien d'autres questions qui seraient éventuellement à poser à propos de l'altruisme. Est-ce que l'écologie appelle de l'altruisme? Est-ce que notre capacité finalement à méditer, et c'est le message de Mathieu Ricard, engendre des modifications structurelles de notre cerveau et appelle par la même occasion une certaine ouverture altruiste à l'autre. En tout cas, voilà, moi je crois que on n'a pas soupçonné l'altruisme dans cet échange qu'on a eu entre nous. On en a simplement exploré les questionnements qu'il générait chez nous. Et en tout cas, pour ma part, je dirais que l'altruisme s'inscrit au plus profond de nous et que nous avons, si matière il y a, à le réactiver si toutefois il s'était endormi.
Ben, je crois que c'est vraiment important. Peut-être en gardant l'idée que la valeur du sacrifice pur, à mon avis, elle a toute chance d'être masochiste. Et donc il y a lieu, il me semble, dans l'altruisme, de tenir l'attention à l'autre et l'attention à soi.
Non, je rappelle juste la proposition que j'ai faite de faire une émission sur le rapport à l'autre, justement. Pourquoi pas le rapport à soi, mais en tout cas le rapport à l'autre et la question de la loi.
Bien, écoutez, on vous remercie de cette écoute et n'oubliez pas de nous transmettre vos réactions sur le site dorsalrgc@gmail.com. Au revoir et au passage, bonne année à tous.
Au revoir, bonne année.
Bonne année.